Voilà, j'invite le frère Marcel Dongala, qui est ancien à l'église de Saint-Denis et qui est en visite ici dans la région, et on profite de son passage pour lui accorder ce privilège de servir le Seigneur en prenant la parole. Donc que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes de l'église de Saint-Denis et c'est le pasteur Steve qui était notre pasteur pendant de longues années. Après, il nous a quittés pour venir ici. Et bien, c'est une joie pour nous. Au début, c'était un regret, mais après, quand on s'est penché dans les écritures de Dieu, on s'est dit non, il ne faut pas qu'on reste humain, mais soyons spirituels. Et on a vu les choses sous un autre angle, que l'évangile du Seigneur doit être propagé partout. Alors on était dans la joie pour que le pasteur vienne ici. Il nous manque beaucoup, mais il est toujours avec nous. Vraiment, et on est très content de voir l'œuvre du Seigneur qui est en train de se faire ici. Et nous prions pour vous et priez aussi pour nous. Comme la Bible dit, prions les uns pour les autres. Voilà, alors rapidement, vous avez déjà les salutations de l'église de Saint-Denis. Nous allons rapidement parler du Seigneur. Et ce matin, par la grâce que le Seigneur nous a accordée, nous voulons parler d'un sujet que nous connaissons tous, qui est très connu par les croyants et par les non-croyants. Parce que si on va se poser une question. Dans la vie terrestre de Jésus-Christ, quels sont les grands événements, bien sûr, de Jésus-Christ qui ont caractérisé sa vie terrestre? Chacun de nous a une réponse. On peut citer plusieurs événements. Il y a la crucifixion, il y a la résurrection, il y a l'ascension du Christ, il y a le baptême du Christ, il y a la tentation, il y a le miracle, il y a plusieurs grands événements qui se sont passés pendant la vie de Jésus ici sur terre. Mais ce matin, nous voulons nous focaliser sur un de ces événements. Il s'agit de la tentation de Jésus-Christ. C'est un sujet que nous connaissons très bien. Prions. Seigneur, merci pour ces privilèges que tu nous as accordés de pouvoir encore une fois de plus parler de toi, partager ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette parole afin que nous puissions nous nourrir de cela et que nous puissions grandir dans notre vie de foi. Nous nous remettons à toi et nous implorons ta grâce et l'aide du Saint-Esprit qui puisse nous aider, Seigneur, avec nos faibles mots, de pouvoir partager cette parole. Nous voulons te dire, comme fut le cas de Samuel, parle Seigneur, car tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons parler de la tentation de Jésus, mais plus précisément le thème de notre méditation ce matin, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu face à la tentation. L'obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu face à la tentation ou pendant la tentation. C'est ces points que nous voulons partager avec l'aide du Saint-Esprit ce matin. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Du premier jusqu'au 11e verset. Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et le verset 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 4, 1 à 11. Le premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la tentation de Jésus-Christ survient juste après son baptême. Après son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et nous connaissons ce qui s'est passé pendant ce baptême. Qu'il y a eu les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu était descendu comme une colombe sur lui. Et une voix se fit entendre. Nous connaissons tous cet événement. Et cette voix déclarait que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais après cette déclaration, la Bible dit au chapitre 4 et au premier verset, la Bible dit « L'Esprit de Dieu amenant Jésus dans le désert. » Ça c'est Matthieu qui le dit au chapitre 4 au verset 1. Et l'évangile de Luc, toujours au chapitre 4 et au verset 1, l'évangile de Luc, au premier verset du chapitre 4, lui, il raconte le même événement, mais Luc commence par dire que Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, Christ rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc commence par rempli. Jésus rempli du Saint-Esprit. On peut s'arrêter quelques minutes là-dessus pour se poser peut-être quelques questions, une question. Mais comment, pourquoi celui qui est fils de Dieu, celui dont le Saint-Esprit vient de déclarer que celui-ci est le fils de Dieu, comment cette personne, comment le fils de Dieu devrait-il être tenté tout juste au début de son ministère? Pourquoi? On peut se poser cette question. Pourquoi il peut être tenté juste au début comme ça? Il y a plusieurs réponses que nous pouvons donner là-dessus, ou vous pouvez donner là-dessus. Mais ce matin, nous pouvons penser que la tentation de Christ n'était pas de savoir si Christ, Jésus-Christ, allait commettre le péché, si Jésus-Christ allait succomber à la tentation, mais la tentation de Christ nous montre, ou ces passages nous montrent que Christ ne pouvait pas pécher. Ne pouvait pas pécher. Que Christ ne pouvait pas succomber à la tentation. Qu'il était impossible à notre Seigneur de commettre la moindre ou le moindre péché. Il va passer par ces épreuves sans céder aux attaques du diable. Il va rester obéissant à la volonté de son Père. Il va rester obéissant au plan de Dieu et il va rester fidèle à son Père. Chers frères et sœurs, Luc dit rempli du Saint-Esprit. Ça m'a travaillé quand je lis cette expression rempli. Et quand on dit rempli, c'est rempli. Hein. C'est pas à moitié rempli, mais c'est rempli, totalement rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Et deuxième élément, il passe 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père. 40 jours et 40 nuits en communion parfaite avec son Père. Mais il est tenté par le diable. Des fois, c'est difficile à comprendre, mais il est tenté par le diable. Mais bien aimé, nous pouvons être des croyants. Vous pouvez être un enfant de Dieu. Vous pouvez être chrétien et avoir des tentations dans votre vie. Et avoir des tentations dans votre vie. Christ est rempli du Saint-Esprit, il est tenté. Vous pouvez être tenté dans votre vie. Alors, quand on est tenté, chers frères et sœurs, cela ne signifie pas que vous êtes un faux enfant de Dieu. Permettez-moi l'expression, je ne sais pas si je me fais comprendre. Cela ne signifie pas que vous êtes un mauvais enfant de Dieu ou un mauvais chrétien. Loin de là. Loin de là. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Vous n'êtes pas un faux enfant de Dieu. Mais cela ne signifie pas non plus aussi que vous allez tomber dans la tentation quand vous êtes tenté. Quand on est tenté, cela ne signifie pas qu'on va céder à la tentation. Cela ne signifie pas non plus aussi qu'on va commettre un péché. Christ a été tenté, mais Christ n'a commis aucun péché. Il y a certains qui diront que mais oui, lui, il était Jésus-Christ. Lui, il était le Fils de Dieu. Mais rappelons-nous que Jésus-Christ était Dieu et homme en même temps. En Jésus-Christ, en lui, il y avait deux natures. Il avait la nature divine et il avait la nature humaine. Et dans le désert, ce n'est pas la nature divine qui était tentée, la nature divine de Jésus-Christ qui était tentée. Non, c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui a été tentée. Parce que la Bible dit plus loin qu'il y eut faim. C'est la nature humaine qui a faim. Donc c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui a été tentée par le diable et non sa nature divine. La nature divine ne peut pas être tentée parce que la Bible dit « Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par le mal ». Vous pouvez lire ça dans Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1 et le verset 13 à 15. La Bible le dit, que Dieu ne tente personne et lui-même Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc ce n'était pas la nature divine de Jésus-Christ qui était attaquée, qui était tentée, mais c'est la nature humaine. Et cela voudrait dire qu'il était comme vous et moi, comme nous. Il a été tenté comme nous. L'Esprit conduit Jésus dans le désert, dit la Bible. Mais le désert, si nous lisons la Bible, le désert c'est souvent un lieu de preuve. Le désert c'est souvent un lieu de l'expérience de la présence de Dieu. Dans la Bible, si on se rappelle bien des histoires de la Bible, de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, nous allons nous souvenir que c'est dans le désert que l'Éternel avait conduit son peuple, les enfants d'Israël. C'est dans le désert que Dieu a conduit les enfants d'Israël pour les éprouver. Et la Bible dit non seulement pour les éprouver, mais pour voir ce qui était dans leur cœur et de voir s'ils obéiraient au commandement de Dieu. C'était dans le désert. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome au chapitre 8 et le verset 2. Oui, c'est là que l'Éternel a conduit les enfants d'Israël pour les éprouver afin de connaître ce qu'il y avait dans leur cœur et de voir s'ils obéiraient à ses commandements. Le verset 2 nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Jésus-Christ a eu faim après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Ce passage ou ce verset aussi nous rappelle aussi toujours les enfants d'Israël. Rappelons-nous que les enfants d'Israël, ils ont fait la marche dans le désert pendant 40 ans. La marche dans le désert pour les enfants d'Israël a duré 40 ans. Et ils ont eu faim aussi dans le désert, si on se rappelle bien, les enfants d'Israël. Ils ont eu faim, mais à la différence de Jésus-Christ, eux, ils ont eu faim dans le désert et ils ont murmuré contre l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont murmuré contre Aaron et contre Moïse, donc contre l'Éternel, avant que l'Éternel puisse leur envoyer le pain du ciel qui était de la manne. Mais à la différence des enfants d'Israël, Jésus-Christ n'a pas murmuré, bien qu'il eût faim. Et les enfants d'Israël, ils sont restés désobéissants dans le désert et ils ont connu des péchés. Mais à la différence de Jésus-Christ, Jésus-Christ va passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, mais va rester sans péché, obéissant et fidèle à son Père, fidèle à son Dieu. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a Moïse, par exemple. Moïse aussi resta obéissant à l'Éternel quand il passa 40 jours et 40 nuits à la montagne. C'était dans le désert de Sinaï. Il passa 40 jours et 40 nuits où il ne mangea point et ne but point d'eau avant de recevoir les 10 commandements. Moïse resta aussi fidèle. Il y a aussi le prophète Élie. On va se limiter là parce que la liste est très longue. Il y a le prophète Élie aussi. Après avoir été nourri par l'ange du Seigneur, marcha dans le désert 40 jours et 40 nuits sans nourriture avant d'arriver à la montagne de Dieu. Et il resta aussi obéissant et fidèle à son Dieu. Nous pouvons le voir dans 1 roi 19 et le verset 8. Revenons maintenant à la tentation de Christ. La tentation de Christ nous est présentée ici par Matthieu en trois étapes différentes. Trois étapes différentes, mais avec le même style. Avec le même style de Dieu, pas le diable. Trois étapes mais différentes, mais même style. Une proposition du diable et une réponse de Jésus-Christ. Mais la réponse de Jésus-Christ est un peu particulière. La réponse de Jésus-Christ faisait toujours appel à la parole de Dieu qui était dans son cœur. Comme le dit le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche point contre toi. » Et Jésus-Christ avait cette parole dans son cœur. Et c'est cette parole-là qui a servi à notre Seigneur de pouvoir répondre au diable. Et nous voyons par là l'importance de connaître la parole de Dieu. L'importance d'avoir dans nos cœurs la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire, bien-aimés, un effort de mémorisation de la parole de Dieu. Un effort de mémorisation de la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit que « Car si mon peuple périt, c'est par manque de connaissance. » Voilà, on est exhorté ici, on est encouragé ici de faire des efforts pour garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et la première tentation, ces trois étapes de la tentation. La première tentation va du verset 3 jusqu'au verset 4. La deuxième du verset 5 au verset 7 et la troisième tentation du verset 8 au verset 10. Dans la première tentation, le diable dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ a faim. C'est tout à fait normal. C'est sa nature humaine. Il a faim. Et le diable lui demande une chose, entre guillemets, de normal. Mange. Tu as faim. Mange. Et le diable lui demande de manger. Nous allons remarquer deux choses là-dessus, chers frères et sœurs. La première chose, que la tentation ici ne réside pas du fait que Jésus-Christ a faim. La tentation ne réside pas là. La tentation réside du fait que il est demandé à Jésus-Christ de manger. Et comment il va le faire? De transformer les pierres en pain. C'est là où se situe la tentation. Et non du fait que Jésus-Christ a faim. Nous pouvons être tentés par les diables, nous aussi, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Christ a faim, on lui demande de manger. Christ a faim, on lui demande de changer les pierres en pain. Tout cela pourquoi? Pour satisfaire un besoin précis. En deux mots, on peut dire, on demande à Jésus-Christ de satisfaire un besoin précis. Quel est ce besoin? La faim. Dans notre vie, frères et sœurs, le diable peut nous tenter aussi en nous demandant de satisfaire un besoin quelconque dans notre vie. Le fait d'avoir ces besoins, le fait de sentir ces besoins dans notre vie, ce n'est pas un péché, c'est normal, c'est tout à fait naturel. On peut avoir faim, on peut avoir soif, on peut avoir besoin d'acheter des habits pour se vêtir. C'est un besoin normal, naturel. Mais le problème ne se situe pas là. La tentation ne se situe pas là. Le problème se situe au niveau: comment faisons-nous? Comment faites-vous pour satisfaire ces besoins naturels, ces besoins qui sont en vous? Et ce fut le cas avec Jésus-Christ. Le diable lui demande de changer ses pierres en pain. Et aujourd'hui aussi, le diable peut te demander aussi, mon frère, ma soeur, de satisfaire un besoin de votre corps, un besoin de votre vie, ou n'importe quel besoin. Mais comment vas-tu satisfaire ce besoin? Tu vas satisfaire ces besoins selon ta volonté, ou tu vas satisfaire ces besoins selon la volonté de Dieu? Mais nous savons que Christ n'a pas cédé, parce que ce n'était pas la volonté de son Père. C'est là où est le problème aujourd'hui pour nous. Comment faisons-nous pour satisfaire nos besoins personnels? La Bible dit: quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, quoi que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, comment faisons-nous? On fait cela pour la gloire de Dieu, de notre Dieu, ou on fait cela pour la gloire de quelqu'un d'autre? Ça, c'est la première chose qu'on a remarquée. Et la deuxième chose, Dieu n'a pas demandé à Jésus-Christ de rompre son jeûne et de manger. La Bible ne le dit pas. La parole de Dieu ne le dit pas. Que Dieu a demandé à Christ: bon, stop, comme tu as faim, eh bien, arrête ton jeûne et maintenant va manger. Ce n'était pas cela. Dieu n'a pas dit cela. Il était capable de nourrir notre Seigneur, notre Dieu. Lui qui a nourri le prophète Élie dans le désert, il était aussi capable de nourrir son fils bien-aimé en ce moment-là. Mais Dieu n'a pas fait cela. Et lui-même, Jésus-Christ aussi, bien qu'il avait le pouvoir d'échanger ses pierres en pain, Jésus ne pouvait rien faire sans l'accord ou sans l'autorisation de son Père. Il ne pouvait rien faire sans la volonté de son Père. Dieu ne lui a pas dit, bon, ok, change ses pierres en pain. Non, comme il ne lui a pas dit, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, il ne l'a pas fait. Il était puissant, notre Seigneur, de lui-même, de transformer ses pierres en pain. Rappelons-nous, lui qui a multiplié cinq pains et deux poissons pour nourrir la multitude, toute une foule, il était aussi capable de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas venu pour satisfaire ses propres besoins. Christ n'est pas venu ici sur terre pour satisfaire ses propres besoins, bien qu'il a eu faim. Mais Christ est venu ici sur terre pour satisfaire les besoins de vous et moi, de nous les pécheurs. C'était le but même de sa venue ici-bas. Il est venu pour satisfaire les besoins des pécheurs que nous sommes et nous apporter le salut. Et la parole de Dieu dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour Christ, l'obéissance à la parole de Dieu et à la volonté de son Père était plus importante que le pain. Et face à cette tentation, celui dont le nom est parole, et la parole va se servir de la parole pour pouvoir répondre au diable. Et il lui a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une manière pour Jésus-Christ de dire que il y a autre chose plus importante dans la vie que le pain. Il y a autre chose plus importante dans la vie que le pain. Nous allons peut-être citer un exemple de Jésus pour voir que lui, sa volonté, ce n'était pas le pain, mais c'était de faire la volonté du Seigneur. Peut-être nous n'aurons pas le temps de lire cela, mais rappelons-nous la rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Quand les disciples sont partis acheter des vivres à la ville, à leur retour, ils sont venus, ils sont rentrés et ils ont vu Jésus parler avec une femme. Et ils ont demandé à Christ, mais maître, mais mange, parce que ça fait longtemps. Tu as faim, mange. Mais écoutons ce que le Seigneur a dit. C'est dans Jean chapitre 4, le verset 31 à 34. Nous n'allons pas tout lire. Jean 4, 31 à 34. Maître, mange quelque chose. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Nous pouvons voir ça dans Jean 4, le verset 31 et 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà le but de la venue de Jésus-Christ. Donc pour Jésus-Christ, faire la volonté de son Père était plus importante que le pain. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a eu faim comme nous. Et nous voyons par là qu'il avait le même besoin que nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, des fois, c'est quand nous passons par le désert, quand nous passons par les épreuves, que nous réalisons vraiment de quoi nous avons faim et de quoi nous avons besoin. De quoi nous avons faim et de quoi nous avons besoin. Mais quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, la parole de Dieu nous exhorte ce matin de rester obéissant au Seigneur et de lui faire confiance. Car lui-même, notre Seigneur, il a vécu la même chose que nous. Il a vécu la même tentation que nous pouvons ressentir aujourd'hui en tant qu'homme, en tant qu'humain. C'est pour cela la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, les versets 15 à 16, que Christ a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et nous pouvons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous pouvons donc lui faire confiance. La deuxième tentation, donc le verset 5 à 7, le diable propose à Christ de tester Dieu pour voir si Dieu est digne de confiance, pour voir si Dieu tient toujours ses promesses. Et pour cela, il va changer de tactique. La première fois, quand il a parlé à Jésus, Jésus lui a répliqué par la parole de Dieu. Et bien maintenant, cette fois-ci, le diable, il change de tactique. Il dit, bon, je viens maintenant avec la parole de Dieu. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le diable qui le dit. Et c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Psaume, c'est écrit dans Psaume 91, 11 à 12. Psaume 91, le verset 11 à 12. C'est écrit. C'est la parole de Dieu. Et le diable lui présente la parole de Dieu. Mais le problème, c'est quoi le problème? Que le diable ne dit pas tout. Il cite qu'une partie du texte. Il ne cite pas toute la pensée de Dieu. Parce que si nous lisons le même texte, mais nous lisons les versets qui sont avant le verset 11 et les versets qui viennent après le verset 12, eh bien ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Mais lui, il a pris seulement, il a isolé seulement le verset pour dire à Christ de se jeter en bas. Cette manière de faire, c'est le style du diable quand il vient nous tenter. Il vient toujours avec une parole un peu tordue, une parole un peu déformée pour pouvoir nous avoir. Rappelez-nous, dans le jardin d'Éden, ce qu'il avait dit à Ève. Est-ce qu'il est réellement, Dieu vous a réellement dit, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas ces fruits? Et c'est la même tactique. C'est la même, il n'a pas changé, c'est le même style. Mais nous pouvons relever quelque chose de très important aussi, que le diable connaît la parole de Dieu. Sinon, il n'allait pas le citer. Il n'allait pas citer cette parole. Le diable connaît la parole de Dieu, mais il a une compréhension très limitée de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas le Saint-Esprit. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Alors que nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la pensée du Seigneur, la pensée de notre Dieu. Et le diable n'a pas le Saint-Esprit. Et certaines choses, c'est très difficile pour lui de les comprendre. Dans le désert, le diable demande à Christ de se jeter du haut du temple pour prouver qu'il est fils de Dieu. Afin qu'on puisse croire en lui, qu'il est, oui, c'est lui le sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui le fils de Dieu. Mais nous retrouvons encore la même tentation à Golgotha. À Golgotha, les gens disent à Jésus-Christ de descendre de la croix s'il est fils de Dieu. Au désert, on lui demande de descendre du haut du temple, de descendre en bas. À Golgotha, les gens lui demandent de descendre de la croix. Nous allons peut-être lire ce verset rapidement dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, les versets 39 à 43. Matthieu 27, 39 à 43. Le verset 39 du chapitre 27 de Matthieu, le verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Voilà, chers frères et sœurs. Dans le désert, le diable dit, descends du haut du temple à Golgotha, on lui demande de descendre de la croix. Mais Christ resta obéissant à la volonté de son Père. Il n'est descendu ni du haut du temple, il n'a sauté ni du haut du temple, et il n'a pas non plus aussi descendu du haut de la croix. Malgré qu'il y avait la souffrance, Jésus ne céda pas aux attaques du diable. Il resta fidèle à son Père et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et rappelons-nous, c'est du haut de la croix que Jésus-Christ a déclaré « Tout est accompli ». Ce n'est pas en bas de la croix. Ce n'est pas du bas de la croix que Christ a déclaré que tout est accompli, mais en restant en haut de la croix, et c'est du haut de la croix que Christ a déclaré « Tout est accompli ». La Bible dit au verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Notre Seigneur Jésus-Christ vivait dans une relation de confiance avec son Père. Il n'avait pas besoin de l'éprouver. Chercher à vérifier si Dieu est digne de confiance ou notre Dieu tient toujours ses promesses, c'est une manière de tenter Dieu, alors qu'on ne tente pas Dieu. Soyons obéissants à notre Dieu et à sa parole, et mettons toute notre confiance en lui. La troisième tentation, le diable demande à Christ de l'adorer et lui promet la gloire et le règne sur toutes choses. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Mais ce que le diable oublie ou ce que le diable ne dit pas, ou peut-être ce que le diable ne comprend pas, c'est que c'est Dieu qui donnera la gloire, le règne et la domination sur toutes choses à son Fils. Nous n'avons pas le temps, mais vous pouvez lire la vision de Daniel. Dans Daniel chapitre 7, verset 13 à 14, le verset 13 à 14 du chapitre 17, que c'est Dieu qui donne à son Fils toute la gloire, tout le règne. Ce n'est pas le diable. Frères et sœurs, c'est un point très, très important pour nous aujourd'hui. Parce que le diable, en faisant cela, il demande à Jésus-Christ de l'adorer. Le diable demande à Jésus-Christ de l'adorer. Mais si Jésus-Christ adore le diable, ça voudrait dire que Jésus-Christ ne dépend plus de Dieu, que Jésus-Christ allait dépendre de Satan, du diable. Et s'il dépend du diable, et alors la mission de Jésus-Christ pour nous, il n'allait pas l'accomplir. C'est pour cela que notre Seigneur est resté obéissant et il a dépendu de la volonté de notre Père. Et il n'a pas adoré le diable. Mais il y a un point aussi très important que nous pouvons souligner là-dessus. Jésus-Christ, en adorant le diable, Christ allait adorer quelqu'un qui était inférieur à lui, par rapport à lui. Jésus-Christ allait adorer un être qui était inférieur par rapport à lui. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole. Et dans 1 Jean chapitre 1, dans l'évangile de Jean chapitre 1 et le verset 1 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. » C'est Jésus-Christ. Cette parole s'est faite chair. Alors, comment pouvons-nous expliquer cette parole qui est au commencement, qui s'est faite chair, pouvait adorer un être inférieur par rapport à C'était pas possible. Mais aujourd'hui, pour nous, les enfants de Dieu, où certaines personnes aussi font la même chose, certaines personnes, dans notre coin du monde, même ici en France, ils adorent des êtres inférieurs. Il y a des gens qui adorent des statues. Il y a des gens qui adorent des poissons, des animaux. Une statue est faite avec le bois. Le bois, c'est l'arbre. Alors que à la création, dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, qu'il domine sur les reptiles, qu'il domine sur les animaux, sur toutes choses sur la terre. Toi qui as une domination sur cette chose-là, tu adores cette chose-là. Mais finalement, on ne comprend plus. Qui domine qui? C'est le bois qui te domine ou c'est toi qui domines le bois? Alors que Dieu t'a dit que c'est à toi de dominer sur ça. Alors comment tu vas te prosterner, adorer une statue qui n'est tout autre que du bois, que de l'arbre, pour lequel Dieu a dit à la création que tu vas dominer cela? Comment tu peux aller t'agenouiller, adorer un poisson? Parce que dans d'autres pays, il y a des poissons sacrés. Hein. Il y a des animaux sacrés qui sont vénérés. Comment tu vas vénérer ce genre de choses alors que c'est toi qui devrais dominer sur toute cette chose-là? Maintenant, qui domine qui? C'est les poissons qui dominent chez toi-même. Et tu finiras par du mal pour manger des poissons peut-être après. Mais parce que c'est lui qui domine chez toi. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ ne pouvait pas adorer le diable. Parce que le diable était un être inférieur par rapport à lui. Faisons attention, mes bien-aimés, parce que ce genre de tentation continue encore aujourd'hui dans nos vies. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul et tu le serviras lui seul. Encore une fois de plus, le Seigneur répond par la seule autorité de la parole de Dieu et par l'obéissance à son Père. Seul Dieu, seul notre Dieu est digne de notre adoration et de notre louange. Et c'est lui que nous adorons, c'est-à-dire le vrai Dieu, notre Dieu, c'est lui aussi que nous devons servir. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens succombent à cette tentation de la gloire, de la réussite, du succès. Et certains ont fait des pactes avec des diables. On le voit, il suffit d'aller sur Internet. Beaucoup de gens sont dans des loges sataniques. Tout cela pourquoi? Pour la gloire, pour la réussite, pour qu'ils soient forts. Mais la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout le monde, et s'il perd son âme, à quoi sert? À quoi sert? Ça ne sert absolument à rien. C'est vrai, nous voulons que Dieu accomplisse des promesses dans nos vies, mais nous ne voulons pas porter notre croix. Mais Jésus-Christ a accepté de porter sa croix, même si son obéissance à son Dieu, à la volonté de son Dieu, devrait passer par la souffrance, par la croix. Mais Christ est resté obéissant. Ce n'était pas facile pour lui de rester obéissant en toutes circonstances. Comme on a dit aussi tout au début que des fois, c'est lorsque je suis face à la tentation que je me rends compte exactement de ce que je suis. Des fois, ça arrive. C'est quand tu passes par des moments très difficiles, des moments durs, des épreuves, c'est là où tu te découvres toi-même qui tu es. Pour finir, c'est vrai que le diable ne viendra pas aujourd'hui nous demander d'échanger les pierres en pain, mais il peut nous pousser à satisfaire nos besoins sans tenir compte de la parole de Dieu, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Le diable ne va pas aussi nous demander aujourd'hui de nous jeter d'un haut, d'un temple. Non. Mais il peut semer des doutes dans nos cœurs sur la fidélité de Dieu, sur la puissance de Dieu et sur l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Il peut aussi me pousser à forcer Dieu à agir, non pas selon sa volonté, selon ma volonté. Des fois, c'est comme ça. Tu t'approches auprès du Seigneur, tu viens déjà avec ta solution dans ta prière. Que Seigneur, je veux ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est ta volonté? Le diable peut nous pousser aussi à forcer Dieu d'agir selon notre volonté, non selon sa volonté. Le diable ne va non plus venir en personne aujourd'hui, comme on les dessine souvent avec des corps, il vient comme ça. Non, il ne viendra plus. Non, il ne viendra pas comme ça. Il ne viendra pas comme ça. Il ne viendra pas nous demander de nous prosterner devant lui. Mais il peut nous encourager. Il peut t'encourager. Il peut m'encourager à expérimenter d'autres moyens de ce monde pour avoir la réussite, pour avoir la gloire et pour gagner toutes choses. Et tout cela, dans quel but? C'est pour t'éloigner de la voie du Seigneur afin que tu ne puisses pas le servir. Alors que la Bible dit, le Seigneur dit que celui que tu adores, c'est celui-là que tu vas servir. Notre Seigneur a utilisé toutes les armes qui sont à notre disposition aujourd'hui pour vaincre le diable et pour vaincre le péché. Il nous a montré comment utiliser une arme qui est très importante, l'épée de l'esprit, qui n'est tout autre que la parole de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Éphésiens au chapitre 6 et le verset 7. La mise en pratique de la parole de Dieu, l'obéissance et la confiance en notre Seigneur sont des choses très importantes dans notre vie si nous voulons tenir ferme pendant les jours mauvais. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole puisse avoir de l'effet dans notre vie.